Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'a rien tout devant derrière. On l'a tout devant derrière. Tout à fait, on l'a tout devant derrière.
Ok.
Chers amis, bonjour et bienvenue dans nos chroniques antarctiques. Nous sommes aujourd'hui à bord du Persévérance, en route vers la mer de Ross. Bon, je vais reprendre ça plus calmement. On n'est pas au jeu des 1000 euros sur Inter, on est sur Radio Pays d'Hérault. Donc, dans l'épisode précédent de cette série de chroniques, je vous ai parlé de notre départ de Nouvelle-Zélande, en route vers le continent antarctique, et Jean-Louis Etienne vous a détaillé les objectifs de cette mission scientifique qui va durer 2 mois. Aujourd'hui, 6 jours après le départ, nous sommes par 60 degrés de latitude sud et nous sommes donc rentrés dans le courant circumpolaire, ce fort courant qui parcourt l'océan Austral tout autour de l'Antarctique d'ouest en est. L'océan Austral est un élément très important dans la machine climatique planétaire. C'est un océan froid et très turbulent à cause des vents de tempête qui soufflent quasi en permanence. C'est donc un puits majeur pour le gaz carbonique atmosphérique, ce fameux gaz à effet de serre que les humains n'arrêtent pas de balancer depuis 2 siècles. Mais cet océan est difficile à étudier car il est très peu fréquenté par les navires, surtout en hiver, comme Jean-Louis va vous l'expliquer dans l'interview qui suit. Une manière donc de contourner ce problème est de larguer des bouées autonomes dérivant dans le courant circumpolaire et qui transmettent leurs mesures océaniques et atmosphériques par satellite. C'est donc ce que nous avons fait hier depuis le Persévérance. La bouée que nous avons déployée s'appelle le Tipod. C'est une grosse bestiole de 6 mètres de haut qui pèse 750 kg, qui flotte en surface grâce à un gros flotteur en mousse et qui comporte plusieurs types d'instruments de mesure. Des capteurs météo qui mesurent la température, la pression et l'humidité de l'air et la direction et la vitesse du vent. Un radiomètre qui mesure la luminosité du soleil, donc la couverture nuageuse. Une centrale inertielle qui mesure les mouvements de la bouée et dont on peut déduire la hauteur et la période des vagues, et un GPS qui donne la position et la vitesse de dérive de la bouée. Ces capteurs fonctionnent en permanence et transmettent leurs données toutes les heures grâce à une liaison satellite. L'ensemble est alimenté par des panneaux solaires et des batteries. Donc Tipod est une petite bête autonome qui va dériver tranquillement autour de l'Antarctique pour un bon bout de temps, on espère. Alors justement, l'espérance de vie des batteries lithium, qui sont rechargées quotidiennement par les panneaux solaires, devrait permettre 2 ans de fonctionnement, donc au moins un tour de l'Antarctique. Évidemment, s'il n'arrive rien de fâcheux à notre Tipod dans les grosses tempêtes ou par échouage aléatoire sur des côtes des îles. La mise à l'eau s'est bien déroulée. Nous avons bien sûr attendu un créneau météo favorable pour faire la manip. Le vent était faible, mais évidemment la houle du Grand Sud est permanente. Donc, avec tout l'équipage sur le pont et 2 personnes dans le Zodiac, nous avons prudemment soulevé les 750 kg depuis le pont arrière du navire, en utilisant la baume de grand voile comme grue. Puis nous avons débordé la bouée au-dessus de l'eau avant de la déposer doucement en surface. Nous avons ensuite surveillé sa dérive pendant environ 2 heures. Et puis après, ciao, longue vie à toi, petit Tipod. Les données reçues pendant les premières 24 heures de dérive sont réconfortantes. Tout va bien à bord et Tipod avait déjà parcouru 30 km, donc avec une vitesse moyenne de 1,3 km/h. Grâce au courant circumpolaire. Désolé, je parle en kilomètres heure et pas en nœuds pour nos auditeurs, donc désolé pour les marins. Et une particularité du Tipode, c'est que ce n'est pas un objet commercial. Il a été entièrement conçu et construit en collaboration avec un lycée professionnel, et c'est ce que Jean-Louis va nous expliquer maintenant.
Alors le Tipode, à un moment donné, je me suis posé la question, dans le cadre du programme pédagogique que nous faisons, ça serait quand même intéressant de mettre dans le coup un lycée professionnel. C'est un peu mes origines de jeune lycéen. J'ai fait une formation professionnelle, je suis tourneur-fraiseur dans ma formation. Au départ, je n'avais pas les notes pour entrer en sixième. Donc j'ai fait, après le certificat d'études, une formation professionnelle. Donc je suis assez attaché à cette notion de formation professionnelle qui m'a redonné du goût, l'intérêt à la scolarité. J'aimais beaucoup la technologie des matériaux, le dessin industriel. Je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas faire une bouée océanographique à un lycée professionnel? Donc moi, je suis originaire du Tarn, et je me suis naturellement orienté vers le lycée Louis Rascol d'Albi, et je leur ai proposé ça. Ce qui est amusant, c'est que quand on est à l'intérieur des terres, un département agricole, ce n'était pas naturel de faire une bouée océanographique. Donc je me souviens très bien, les professeurs disent c'est intéressant, mais un peu, est-ce que c'est notre légitimité? Voilà, et la directrice a dit mais non, c'est très bien, et on est parti là-dessus. Et les profs se sont tout de suite impliqués, ils ont désigné des élèves, et c'est comme ça que le pod a été d'abord dessiné. Puis il y a eu des partenaires qui sont intervenus, des partenaires techniques, quelques partenaires financiers qui nous ont aidés, et il y a eu cette construction progressive. Et donc ça a pris 3 ans, parce que c'était long, parce qu'il y a des changements, parce que c'est techniquement aussi quelque chose sur lequel ils se sont beaucoup impliqués. Et c'est comme ça que le Tipode est né. Alors, Tipode, c'est quoi? Tipode, c'est, je cherchais un nom pour cette bouée océanographique, et je me dis c'est un petit pod, petit polar pod, et donc je l'ai appelé Tipode.
Dans le lycée donc, professionnel de Rascol, ça a impliqué plusieurs BTS. Donc il y a un BTS de construction, conception industrielle, ils sont surtout occupés de la structure mécanique. Après il y a un BTS d'informatique réseau, ils sont occupés de toute la programmation des instruments. Et un BTS d'informatique électronique, ils sont occupés de la partie hardware, quoi. Et ils sont complétés les uns les autres. Bon, c'est vrai que quand j'ai été les voir avec toi, on a senti un énorme enthousiasme, une très grande motivation dès le départ. Et après, quand on a fait les premiers essais du Tipode, donc à 7, il y a 6 mois, là, en juin dernier, où il y avait aussi les profs et pas mal d'élèves, on les sentait à fond dans le projet, quoi. Ils étaient tellement contents que ça se réalise et qu'on mette le truc à l'eau pour la première fois.
Oui, oui, ça a matérialisé, ça a confirmé tout d'un coup ce projet qui était né à l'intérieur des terres, lui donner une vraie formule maritime, quoi. En plus, on l'a mis au large, on l'a laissé partir pendant 48 heures, on l'a revenu. Et donc, ils étaient sidérés de voir, on peut dire ça, quoi, heureux, mais en même temps, tellement sidérés de voir qu'ils avaient réussi à faire ça, qui marchait. Parce que, en fait, ils ont fait beaucoup de tests à Albi. Leur intervention, au-delà de la construction, c'est effectivement le suivi. Les capteurs qui vont envoyer de la donnée, il faut les suivre, etc. La gestion de l'énergie, ce sont des choses qu'ils ont fait déjà avec le CLS, hein, qui les a aidés, qui s'occupe de la transmission, qu'ils avaient fait donc à terre, et tout d'un coup de voir que ça fonctionnait en mer, c'était vraiment le baptême réussi.
Bon, et tu disais que le nom, le Tipode, ça vient, donc c'est le petit frère du Polarpod. Explique-nous un peu ce que c'est que le Polarpod.
Alors le Polarpod, polar comme polaire, et POD, POD, plateforme océanographique dérivante. Donc c'est un navire vertical, on va dire. C'est une structure flottante, tubulaire, qui fait 100 mètres de haut, dont 75 mètres sous l'eau, avec un lest de 150 tonnes, et qui répond à l'attente des chercheurs sur l'océan Austral, cet océan qui entoure l'Antarctique où nous sommes, qui est étudié pratiquement exclusivement que l'été par les campagnes. Et donc l'attente, c'était comment ces journées sur ce océan, dans des bonnes conditions de sécurité et de confort, toute l'année. Là, on parle des fameux 50e hurlant, 40e ruissant, donc une mer formée, du vent, etc. Le concept de stabilité dans la grosse mer, et en permanence, ça a été d'aller chercher la stabilité sous l'eau. C'est pour ça qu'il est vertical, 75 mètres sous l'eau. C'est une structure tubulaire en treillis, donc on n'est pas percuté comme un bateau par le passage des vagues, mais les vagues passent à travers. Donc on a fait beaucoup de tests en bassin, sur des maquettes qui font 2 mètres, bassin des Carènes de l'Ifremer à Brest et l'école centrale de Nantes. Et donc la stabilité est remarquable, quoi, hein. Donc toutes les études sont faites. Il y a un passage en chantier qui prend du temps et c'est ça qui nous retarde un peu. Mais on espère bien qu'il va exister, ce Polarpod. Et quand on était à l'UNOC, à Nice, le nombre de chercheurs qui sont passés, pas que des Français, quoi, hein, il y avait beaucoup toutes les nationalités qui avaient entendu parler, qui connaissaient Polarpod. Et il y a une attente sur ce vaisseau parce que rien de comparable n'a été fait. Et on voit bien que l'océan Austral, principal puits de carbone océanique de la planète, immense réserve de biodiversité méconnue, fait que cette attente d'un séjour tout au long de l'année est vraiment attendue. Une autre performance du Polarpod, c'est qu'il est, on va dire, zéro émission. Le moteur principal, c'est le courant qui va entraîner le Polarpod. Et puis l'énergie, c'est le vent. On aura 6 éoliennes. Donc il a cette vertu à pouvoir rester en permanence en mer. Les chercheurs du CNRS nous ont demandé de faire 2 fois le tour de l'Antarctique. C'est géant. On a estimé c'est 3 ans. Donc personne ne restera 3 ans à bord. Et il y aura des relèves d'équipage à bord de Perseverance où nous sommes actuellement.
Oui, le Perseverance au départ, il a été conçu comme navire ravitailleur de la plateforme Polarpod.
Oui, Perseverance à l'origine est un des principaux sujets de réflexion sur la structure. D'abord, bien sûr, une structure capable de pousser la banquise, quoi, aller dans les régions polaires, mais surtout, chaque fois qu'il y aura une relève d'équipage et approvisionnement, il y aura la mise à l'eau d'une annexe. Et comment mettre à l'eau l'annexe sur un bateau comme ça, qui est effectivement, c'est la rampe arrière qui est caractéristique du bateau, entre autres, pour ça. Et donc, Perseverance est née, je dirais, a été mise en chantier au moment où Polarpod devait l'être. Le rendez-vous devait avoir lieu à Cape Town, en Afrique du Sud, d'où le Polarpod doit partir. Et pour le moment, il y a du retard sur le Polarpod. Et donc, nous devons entraîner Perseverance et le mettre dans des campagnes océanographiques aujourd'hui. Et donc, on travaille essentiellement sur le rôle que l'on peut donner à Perseverance, qui est un bateau intéressant, 42 mètres à propulsion vélique. Le moteur, les échappements sont traités à l'urée. Donc, on a fait un gros effort sur le faible impact environnemental. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, et toi, Hervé, tu connais bien, c'est la multitude des capteurs très performants, petite consommation, petit encombrement. Et donc, petit à petit, il va trouver sa place, Perseverance, dans des campagnes océanographiques.
Effectivement, Perseverance est déjà bien partie pour notre campagne dans l'aire marine protégée de la mer de Ross, que nous allons aborder dans la prochaine chronique. À bientôt, chers auditeurs. Chroniques antarctiques. Voyage à la mer de Ross. Je vous emmène naviguer au cœur d'une expédition polaire le long des côtes de l'Antarctique.
On l'envoie tout devant derrière. Voilà, tout devant derrière. Tout à fait, on l'envoie tout devant derrière. Ok.